Chapitre 27. Mourir ou tuer. Peut-être Pardaillan avait-il une idée de derrière la tête en entraînant Jacques Clément à Blois. Toujours est-il qu'ils sortirent ensemble de Paris et prirent aussitôt le chemin de Chartres pour, de là, se rendre au but de leur voyage. Il n'y avait pas une heure qu'ils avaient quitté le couvent des Jacobins lorsqu'un cavalier en sortit à son tour. Ce cavalier n'était autre que le frère portier en personne, lequel, monté sur une excellente mule, s'en allait à Blois pour son compte, ou plutôt pour le compte du prieur Bourgoin. Le moine portait une lettre cachée sous son froc. La lettre était à l'adresse de la duchesse de Montpensier. Par surcroît de précaution, le prieur avait recommandé au digne portier de ne pas dépasser les deux cavaliers qui couraient devant lui sur la même route. Recommandation d'ailleurs inutile, songeait Bourgoin, car il était peu probable que le moine, avec sa mule, pût rejoindre Jacques Clément et son compagnon montés sur de bons chevaux. Ceci posé, nous laisserons Jacques Clément et Pardaillan à cheval et le frère portier à mulet continuer leur chemin, et nous reviendrons à Blois dans la chambre du roi. La scène que nous allons retracer se passait une semaine après la remise à Catherine de Médicis de la lettre payée à Maurevers 500 000 livres. Pendant cette semaine, la vieille reine avait hésité, réfléchi, étudiant de près l'attitude des Guises et cherchant à surprendre sur leur visage le secret du crime qu'ils méditaient. Ce jour-là, c'était le dimanche 12 novembre. Un épais brouillard montait de la Loire à l'assaut de la colline sur laquelle s'étagent les rues de Blois. Il y avait eu repos, c'est-à-dire que les députés ne s'étaient pas réunis comme de coutume pour continuer l'élaboration du nouveau régime qu'on voulait arracher au roi. Dans les rues de Blois, on ne voyait personne. Par contre, le château était encombré de seigneurs et il y avait foule dans les appartements royaux. Un courrier venait d'arriver de La Rochelle, au grand étonnement des courtisans royalistes ou guisards, unis dans une haine commune contre les Huguenots. Que pouvait bien vouloir le Béarnais? Comme preuve de confiance et de grande amitié, le roi avait ouvert devant tous la missive d'Henri de Navarre. Et il la lut à haute voix. En résumé, le Béarnais, parlant au nom des protestants rassemblés à La Rochelle, faisait une double demande. Premièrement, il demandait qu'on restituât aux Huguenots les biens qui leur avaient été confisqués. Deuxièmement, il réclamait pour eux la liberté de conscience. Cette lecture, faite, comme nous avons dit, à haute voix par le roi lui-même, fut accueillie par des huées, des rires, des menaces contre le messager, qui, très calme et très digne, attendait la réponse. De l'avis unanime, la première de ces deux demandes fut jugée impertinente et la deuxième extravagante. « Que dois-je répondre au roi mon maître ?» demanda le Huguenot quand la tempête des rires et des menaces se fut un peu apaisée. « Dites au roi de Navarre, dit Henri III, que nous réfléchirons aux questions qu'il nous soumet et que, quand nous aurons pris une décision, c'est monsieur le duc de Guise, lieutenant général de nos armées, qui lui portera notre réponse. » Ces paroles soulevèrent des acclamations furieuses. C'était la guerre déclarée aux Huguenots et la guerre conduite par Guise, le pilier de l'Église. Cette réponse devait avoir d'incalculables conséquences. C'est en effet après l'avoir reçue qu'Henri de Navarre prit la campagne avec son armée, résolu à conquérir les armes à la main, ce qu'on lui refusait de bonne foi. Quant à son messager, il s'était froidement incliné devant Henri III et, se retournant, avait traversé les groupes de rieurs ou de furieux d'un tel air que les plus enragés lui avaient fait place. 10 minutes plus tard, sans se reposer, il remontait à cheval dans la cour carrée et sortait aussitôt de Blois. Ce messager s'appelait Agrippa d'Aubigné. Voilà quels événements s'étaient passés en cette soirée de novembre. Le roi, mis de bonne humeur par les acclamations qui avaient accueilli sa réponse, était resté jusqu'à 10 heures, causant de préférence avec les gentilshommes de la Ligue et faisant toutes sortes de caresses au duc de Guise. Enfin, le signal de la retraite avait été donné. Les appartements royaux s'étaient vidés. Le roi était dans sa chambre, aux mains de son valet qui préparait son coucher. Lorsque les préparatifs furent terminés, ce qui n'était pas une petite affaire, le roi, enveloppé d'une vaste robe, renvoya son valet de chambre en lui disant qu'il l'appellerait lorsqu'il serait temps d'éteindre les lumières. À ce moment, la reine-mère entra. Henri III, qui ne la voyait jamais en tête-à-tête qu'avec ennui ou avec une sourde terreur, ne put s'empêcher de faire une grimace. « Mais, madame, fit-il, sans se donner la peine de dissimuler, je m'allais mettre au lit après avoir quelque peu examiné ce cahier des Parisiens. C'est inconcevable, madame, tout ce qu'ils demandent. Ah, les misérables, que je remette seulement les pieds dans Paris avec une bonne et solide armée !» Catherine de Médicis était assise silencieusement, et il est certain que, dans sa robe noire, avec sa tête pâle, ses yeux gris demeuraient étrangement clairs, elle pouvait assez produire l'impression d'un fantôme. En la voyant s'asseoir, Henri III se jeta rageusement dans un fauteuil d'un air qui signifiait « Allons, avalons le calice jusqu'au bout !»« Henri, dit la vieille reine d'une voix douloureuse et presque tremblante, bientôt je n'y serai plus. Bientôt la mort vous aura débarrassé de moi. Alors vous me regretterez peut-être. Alors vous songerez à votre vieille mère qui veillait sur vous et s'exposait à vos rebuffades. Alors peut-être vous rendrez justice au sentiment qui m'a toujours guidé et qui est celui d'une affection indestructible puisque votre ingratitude n'a pu l'atténuer. Je sais que vous m'aimez, ma mère, dit Henri III d'une voix caressante. Ma mère, fit Catherine, il vous arrive bien rarement de m'appeler ainsi, Henri, et ce mot est doux à mon cœur. Oui, je vous aime et profondément. Mais vous, Henri, vous ne m'aimez pas. Vous me supportez avec impatience. J'ai trouvé plus d'affection chez Charles et chez François que je n'aimais guère, vous le savez. Et pourtant, ajouta-t-elle sourdement, je les ai laissés mourir parce que je voulais vous voir sur le trône. » Catherine baissa la tête et, plus sourdement pour elle, elle ajouta « Ceci est mon châtiment. Je souffre depuis 16 ans à chaque jour, à chaque heure de ma vie. Je souffre de voir que je fais peur à mon fils bien-aimé. Henri, savez-vous le premier mot que me dit votre père lorsqu'il m'épousa ?»« Non, madame, mais je pense que ce fut une parole d'amour. » fit Henri III en bâillant. J'étais jeune, presque une enfant. J'arrivais d'Italie tout enfiévrée par la joie de voir Paris, d'être la reine dans ce grand beau royaume de France. J'étais belle. Je venais, décidée à aimer de tout mon cœur cet époux qui était un si grand roi et qu'on disait si aimable. J'avais 1000 choses dans la tête et dans le cœur. Un sourire, un mot d'amour, eussent fait de moi la femme la plus soumise, la plus heureuse. Or, nous fûmes mariés. Lorsque nous fûmes seuls dans la chambre nuptiale, je vis avec un frémissement de douce émotion votre père s'approcher de moi. Je le vois encore, il était habillé tout de satin blanc. Il s'approcha donc, m'examina 5 minutes. Je défaillais presque. Et quand il m'eut bien examiné, il se pencha sur moi et me dit « Mais, madame, vous sentez la mort !» Henri III pâlit. Catherine de Médicis releva sa tête, où ses 2 yeux mettaient une double flamme. « Et votre père sortit de la chambre nuptiale, » ajouta-t-elle. « Ce fut une triste vie que la mienne, jusqu'au jour où le coup de lance de monsieur de Montgomery me fit veuve. Eh bien, Henri, ma vieillesse est aussi triste que le fut ma jeunesse. » Madame, balbutia Henri III, ma mère. Catherine l'arrêta d'un geste. Je sais quels sont vos sentiments. Épargnez-vous toute contrainte. Votre père me l'a dit, je sens la mort, et toute ma vie s'est résumée dans cette question qui s'est dressée devant moi tous les jours. Tuer ou être tué? Mourir ou tuer? Que voulez-vous dire? S'écria Henri, pris de cette sorte de terreur que lui inspirait si souvent sa mère. « Je veux dire que toute ma vie, j'ai dû tuer pour ne pas l'être. J'ai dû tuer pour que ne mourusse pas ceux que j'aime. Il faut que je tue encore pour que vous ne mouriez pas, vous que j'aime, vous, mon fils. » Cette fois, Henri III ne songea plus à déguiser l'épouvante qui s'emparait de lui. « Je dois donc mourir ?» fit-il d'une voix étranglée. « On veut donc me tuer ?»« Vous l'eussiez été 100 fois déjà si je n'avais été là. Et maintenant encore, la question terrible se pose pour moi. Si on vous tue, mon fils, je mourrai. Donc c'est encore, c'est toujours pour moi, mourir ou tuer. Quand je vous dis que je sens la mort. » Henri III fut secoué par un frisson. Sa mère ne l'ennuyait plus, elle l'épouvantait. Tout ce mystère dont s'enveloppait Catherine et qui lui donnait des allures de sibylle, ces paroles de terreur et de mort qu'elle prononçait d'une voix funèbre, ces attitudes qu'elle prenait naturellement comme une bonne comédienne qui ne peut plus se défaire des gestes scéniques, tout cet ensemble produisait sur le roi une profonde impression. « Or, reprit Catherine avec un sourire amer, puisque votre père a déclaré que je sens la mort, je ne dois pas le faire mentir, car il serait capable de venir me tirer par les pieds à l'heure des minuits terribles. » « Madame, fit sourdement Henri III, croyez-vous donc vraiment que les morts peuvent sortir de leur tombe pour venir tourmenter les vivants ?»« Pourquoi non ? » dit Catherine en pâlissant davantage. Henri III regarda autour de lui avec une évidente inquiétude. « Que craignez-vous ? » demanda Catherine. Elle étendit la main comme pour une adjuration. « Je vous comprends. » Je lis sur votre visage bouleversé que vous redoutez la visite de votre frère Charles. « Madame, balbutia Henri en s'essuyant le front, ou de Coligny, ou de l'un de ceux du grand massacre. Eh bien, rassurez-vous, je prends sur moi toutes ces morts. Tous ces spectres, je les ai conjurés avec l'aide de Ruggieri. Et si jamais ils viennent nous demander des comptes, c'est à moi seul qu'ils devront s'adresser. » Je suis de taille à les recevoir et à leur répondre. » En parlant ainsi, la vieille reine se redressa. Et vraiment, on l'eût prise pour un spectre conjurant d'autres spectres. Henri la considérait avec une admiration mêlée d'effroi. Il eût tout donné pour que sa mère s'en allât. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de lui trouver une sorte de grandeur tragique. « Que disions-nous ? » reprit Catherine. « Oui, que les morts sortent parfois de leur tombe et que je ne voulais pas faire mentir votre père. Je dois répandre autour de moi de la mort. Quand je regarde mon passé, Henri, j'y vois une innombrable quantité de morts. Ma vie, la vôtre, notre vie est faite de morts. Et aujourd'hui encore, la terrible question revient plus pressante, plus âpre que jamais. Mourir ou tuer ? Mon fils, voulez-vous mourir ? Voulez-vous tuer ? « Choisissez !»« Au nom de Notre-Dame, » murmura Henri en faisant un signe de croix, « expliquez-vous, ma mère. »« Je m'explique. Si vous n'êtes décidé à tuer, il faut vous préparer à mourir. »« Tuer ? Mais qui ? Ceux qui veulent votre mort, à vous. »« Et qui sont ceux-là ? » haleta le roi. « Lisez, » répondit la reine-mère. Catherine tira un papier de dessous les voiles noires qui l'enveloppaient et le tendit à Henri, qui le saisit avidement, s'approcha d'un flambeau et se mit à lire. C'était la lettre que Maurevers avait remise à la vieille reine. Quand il eut fini sa lecture, Henri se retourna vers sa mère. Il était livide et ses mains tremblaient. « Ainsi, gronda-t-il, Guise veut m'assassiner malgré son serment d'amitié. Car je ne le comprends que trop. » Cette mort dont il est ici question, c'est la mienne, n'est-ce pas ? Catherine fit un signe de tête affirmatif. « Qui vous a remis cette lettre ? » reprit Henri III. « Un serviteur de Guise, un traître, car il a ses traîtres autour de lui, comme nous avons eu les nôtres. Le sire de Maurevers. » « Il faut récompenser cet homme, madame. » « C'est fait. Et depuis quand avez-vous cette lettre ? » reprit le roi, chez qui l'épouvante faisait place maintenant à un accès de colère furieuse. « Depuis 8 jours, répondit Catherine. Elle n'eut pas plus tôt prononcé ces mots qu'elle s'en repentit et se mordit les lèvres. En effet, le roi s'était écrié « 8 jours ? La lettre est donc antérieure au serment d'amitié. » « Oui, répondit Catherine, mais qu'importe, si vous croyez que Guise a voulu vous tuer, « qu'importe le moment où il a voulu. Ah, prenez garde, je vois que déjà votre colère tombe, que votre terreur s'évanouit. Insensé, prenez garde, vous dis-je. Si vous ne voulez pas mourir, il faut tuer. » « Madame, fit froidement Henri III, vos soupçons vous égarent. Rien dans cette lettre ne prouve positivement que le duc a pu concevoir ce forfait. Et l'eût-il conçu, le serment efface tout. Et n'ai-je pas voulu le tuer moi-même? Cela m'empêcha-t-il de tenir mon serment de bonne foi? Il est impossible qu'un homme dans son bon sens s'expose à la vengeance qu'il atteindrait sûrement s'il parjurait un serment fait sur le Saint-Sacrement et l'Évangile. La terre s'entr'ouvrirait sous ses pieds et le ciel foudroierait l'impie. » Catherine frémissait. « Aveugle ! » murmura-t-elle. « Ainsi, vous refusez de me croire, mon fils ?»« Je crois, dit Henri fermement, que votre affection vous rend injuste. Croyez-vous, madame, que j'éprouve une amitié pour le duc ou que je crois à la sienne ? Non, je le subis, voilà tout. Il est fort, il tient le royaume avec sa ligue. Si je veux rentrer à Paris en roi, je dois plier aujourd'hui, quitte à prendre ma revanche plus tard. Vous-même, ne m'avez-vous pas mille fois enseigné cette politique ? Quant à supposer un seul instant qu'il veuille se parjurer, ceci, madame, est tout à fait impossible. Et si je vous le prouvais, Henri ? Si je vous apportais cette preuve qu'aujourd'hui, comme avant le serment, le duc veut votre mort, que feriez-vous ? Henri frappa ses mains l'une contre l'autre. Oh ! Grinça-t-il, malheur à lui en ce cas, car je serai pour lui la foudre du ciel et je croirai non pas seulement me préserver, mais venger la majesté divine en le frappant. Ce que je ferai, je réunirai à l'instant les plus braves de mes gentilshommes et je leur dirai « Allez !» et ne revenez qu'avec sa tête. Sire, dit Catherine en se levant, je vous demande 3 jours. Dans 3 jours, je vous apporterai la preuve. Malheur, répéta le roi, malheur sur lui. La preuve, et je lâche ma meute sur ce sanglier. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire, Henri, dit vivement la vieille reine. Si je vous prouve que Guise est parjure, qu'il veut vous tuer, que vous devez tuer pour ne pas mourir, si je vous prouve cela, sire, il faut plus que jamais le caresser. Il faut ruser, patienter, attendre le moment favorable et préparer nos filets de sorte que ni lui ni aucun des siens ne nous échappe. Sire, c'est ici une nouvelle Saint-Barthélemy qu'il nous faut. Les 3 Lorrains doivent mourir si vous voulez vivre. Les chefs de la Ligue doivent mourir. Tous ces insolents ligueurs qui vous ritonnaient doivent mourir. Laissez-moi faire, laissez-moi tout préparer, tout combiner. Il suffira qu'au dernier moment vous donniez l'ordre et le signal. Adieu, mon fils, méditez mes paroles. Et puisqu'il s'agit de semer la mort autour de nous, laissez agir celle qui sent la mort. En même temps qu'elle parlait, Catherine s'était lentement reculée vers la porte, en sorte qu'au dernier mot, elle parut s'effacer, s'évanouir dans l'ombre. Et à ce moment, dans le grand silence qui pesait sur le château de Blois, la grande horloge se mit à sonner. Henri, haletant, les cheveux collés au front par la sueur, compta les coups. « Minuit !» murmura-t-il quand le bronze à son tour eut fait silence. « L'heure où les morts sortent de leur tombe. Est-ce bien ma mère ? Est-ce un spectre qui était là, à l'instant, et qui vient de me dire ces terribles paroles ? Tuer ? Toujours tuer ! » Dans cette seconde, une clameur étouffée parvint jusqu'à Henri III. Une plainte au loin traversa l'espace, quelque chose comme le cri d'agonie d'un homme qu'on tue. Les cheveux d'Henri se dressèrent sur sa tête. Il demeura immobile à la même place, à demi penché, haletant. Il écouta, mais la plainte ne se renouvela pas. Le triste silence de novembre enveloppait toute chose, comme si les brouillards de la Loire eussent tout hâté la ville et la campagne. Dans le château, ce silence était plus lourd encore, et nul ne semblait s'être inquiété de ce cri d'homme qu'on égorge. Alors une sorte de terreur superstitieuse s'empara du roi. Il lui sembla que c'était lui-même qui, dans la nuit, avait poussé cette plainte, et que c'était lui qu'on égorgeait. Un faible soupir gonfla sa poitrine, et il s'évanouit dans son fauteuil.